Bonjour à tous. Dieu nous rassemble et Dieu nous envoie vers ceux qui sont sans Dieu et sans espoir. C'est ce qui est dit dans le chant, sans Dieu et sans espoir. C'est vrai, c'est une grâce pour nous de le connaître, c'est une grâce pour nous d'avoir cet espoir, cette espérance, d'avoir la vie éternelle. Et c'est aussi une grâce pour moi d'être devant vous et bien sûr un privilège et une responsabilité de vous partager la pensée de Dieu. Prions. Père, je te demande que les yeux de nos cœurs voient et que nos cœurs goûtent à la valeur suprême de Jésus-Christ. Et étant si confident et satisfait en lui, que nous aurons le courage d'offrir nos vies pour apporter l'Évangile au peuple non atteint, qu'importe le prix que cela coûte. Révèle-nous ta personne de façon magnifique et splendide. Ta fidélité vaut mieux que la vie. Oui, mieux que la vie. Je prie que chaque vie dans cette pièce croit et croit vraiment au plus profond de son être, que tu aies plus à être désiré que la vie. Et je prie cela au nom de Jésus. Amen. Debout à côté de la tombe de Lazare, Jésus dit à Marthe, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. » Est-ce que vous croyez cela? Comme quoi on ne mourra jamais? Jamais. On ne mourra pas. Jésus l'a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et si nous avons mangé de ce pain qui est le Christ, si nous sommes venus à Christ, qui est mort pour nous et ressuscité et vit triomphalement, si nous avons mangé à en satisfaire nos âmes, on ne mourra jamais. Il l'a dit, vous ne mourrez jamais. Jean chapitre 8, verset 51, nous dit, amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jamais. Ceci est le fondement de l'amour et du courage qui peut justement nous pousser à finir la grande mission. Et cela parfois au prix même de nos vies. Et c'est le cas pour nos frères et sœurs qui vivent au Pakistan, au Nigeria, en Syrie, en Corée du Nord et dans bien d'autres pays. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 20, « Selon ce que j'attends, avec impatience, ce que j'espère, je n'aurai honte de rien, avec une entière assurance, maintenant comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort m'est un gain. » Non, la mort n'est pas une fin en soi, mais un gain. Et ce n'est pas un gain que d'être mort. Lorsqu'on mourra, on ne sera pas mort. Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, je ne sais que préférer. Je suis enfermé dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Ainsi, on ne sera pas mort lorsqu'on meurt. Au contraire, on sera dans de bien meilleures conditions, parce que ta fidélité vaut mieux que la vie. Aucun chrétien ne meurt, non, jamais. La mort n'est pas devenue une sorte de chambre sombre que l'on traverse en marchant. Elle est plutôt une sorte de porte de passage. Et ce passage que l'on traverse vers l'au-delà est d'une extrême courte durée. Donc, ce passage ne constitue pas une nouvelle dimension entre ici et l'au-delà. Ce passage, nous le traversions en un millième de seconde. Et à aucun moment de ce passage, nous vivrons la mort. Nous passerons de la vie à la vie, avec rien entre les deux. Le psaume chapitre 16, verset 10, nous dit « Car tu n'abandonneras pas au séjour des morts. Tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton fidèle voie la fosse. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant toi, des délices éternels à ta droite. » Voici ce qu'il y a de l'autre côté de ce passage, qu'on appelle la mort, les délices éternels. Et il n'y a personne dans cette salle qui pourrait proposer quelque chose de mieux. En fait, il n'y a personne dans cette salle ou dans ce monde qui pourrait même concevoir quelque chose de mieux que l'abondance de joie et de délices en sa présence, pour toujours, à jamais, éternellement. Il n'y a rien de plus complet que complet. La plénitude. Il n'y a rien de plus durable que l'éternité. Donc, si quelqu'un venait en disant que j'ai une meilleure proposition que de suivre Jésus, on dirait, allez-y, essayez de proposer quelque chose. Et finalement, après l'avoir dit, on réalise qu'il n'y a aucune comparaison. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus plein que la plénitude. Il n'y a rien de plus long et durable que l'éternité. Et c'est ce que nous recevons, la plénitude du bonheur pour l'éternité en sa présence. Celui qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous et qui ressuscita des morts de façon triomphante et règne comme roi dans les cieux, reviendra pour faire de ce monde sien. Et nous ne serons nullement capables de le rendre meilleur. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 21-23, « Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes, car tout vous appartient. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout vous appartient. Mais vous, vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. Lui, la mort, nous appartient. Elle est notre servante. » Oh, c'est sûr. Elle se tient prête comme une servante à l'aspect rude et sombre, mais seulement pour nous conduire dans les plaisirs éternels. On ne mourra jamais. Aujourd'hui, notre communion avec Jésus n'est peut-être pas parfaite. Mais lorsque nous passerons de l'autre côté, nous vivrons une communion parfaite, une communion intense avec Jésus, dans une joie que, je pense, ne cessera de grandir dans l'éternité. Nous ne pouvons et nous ne mourrons pas. Parfois, dans nos vies, on a peur pour rien et encore plus de mourir. Mais plaise à Dieu d'utiliser ce moment ensemble pour planter cette vérité au plus profond de notre être, et que cela prenne racine à partir de laquelle se développera en nous une sorte d'amour radical qui nous donnera de faire face à l'opposition, et cela même parfois au risque de nos vies, pour rapporter le Christ au peuple non atteint du monde. Cette confiance que nous vivrons dans la plénitude de la joie et les délices éternels dans la présence de Jésus, de l'autre côté de ce qu'on le nomme la mort, est le fondement de l'amour qui est prêt à donner sa vie pour le bien des nations. Cette confiance que nous ne pouvons mourir, mais voir seulement augmenter notre bonheur produit des martyrs qui sont prêts à mourir dans l'amour et non des martyrs qui tuent dans la haine. Et c'est cela à quoi nous devons aspirer. C'est cela à quoi j'aspire. Si vous avez une Bible, je vous invite à tourner avec moi dans Hébreux chapitre 10. Nous allons passer le reste de notre temps dans l'Épître aux Hébreux et essayer de comprendre que la motivation d'être totalement et profondément, pleinement satisfait de la récompense qui sont les délices à sa droite et une abondance de joie pour l'éternité, c'est que d'être profondément satisfait en Christ, le considérant comme notre trésor suprême. C'est cela le puissant motif pour offrir sa vie dans l'amour, pour le bien des nations. Voilà ce que nous allons essayer de comprendre maintenant. Bien sûr, c'est une déclaration qui est très controversée. Parce que si vous avez étudié un peu la philosophie, vous savez qu'il y a eu dans l'histoire des philosophes qui ont dit que c'est une motivation plutôt défectueuse que de vouloir accomplir le bien en vue d'une récompense. Ils disent que nous ne devrions pas faire ce qui est juste en vue de la récompense, mais simplement parce que c'est juste de le faire. Un pasteur a dit un jour que faire ce qui est juste simplement parce que c'est juste est une idée athée. Faire ce qui est juste et droit, sans tenir compte de Dieu, est une conception humaniste, athéiste. Faire le bien en vue de le faire pour la gloire de Dieu, c'est être motivé par une vision biblique. Et lorsqu'on analyse à la racine ce que signifie « pour la gloire de Dieu », on remarque que cela ne signifie pas faire une faveur à Dieu, mais le contraire, c'est se faire une faveur pour sa gloire. Lorsque nous faisons le bien, nous recevons le bénéfice qui est la joie et Dieu reçoit la gloire. Voilà ce que nous allons essayer de voir. Nous allons voir 4 ou 5 passages. Et c'est très étonnant de ce que l'on peut découvrir dans l'Épître aux Hébreux. Et je vous invite à jeter un regard d'abord dans Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous plutôt de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Ils se sont convertis tout récemment et comme chrétiens encore jeunes dans leur foi, ils ont traversé de dures épreuves. Tantôt vous étiez livrés en spectacle, exposés aux insultes et aux détresses. Tantôt vous vous rendiez solidaires de ceux qui subissaient pareil traitement. Oh, je pense qu'on a tous eu l'occasion d'entendre parler de nos frères et sœurs qui souffrent, en ce moment surtout, en Syrie ou en Irak. Nous ne sommes pas, nous, en prison. Saïd est en prison. C'est ce que nous lisons justement ici au verset 33. Tantôt, vous vous rendiez solidaires de ceux qui subissaient pareil traitement. Qu'est-ce qui leur est donc arrivé quand ils se sont tenus solidaires? Au verset 34. En effet, vous avez été sensibles au sort des prisonniers. La 8 secondes nous dit, vous avez eu compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qui leur est arrivé lorsqu'ils ont fait le choix de s'identifier aux prisonniers? Ils ont été accusés de faire partie de ces chrétiens. Et la conséquence de ce choix a fait que les gens ont pillé leurs biens ou même confisqué leurs biens. Voilà ce qui peut arriver lorsqu'on exerce la compassion. Voilà ce qui peut arriver lorsqu'on se positionne pour la vérité, pour la justice, pour l'évangile, pour la gloire de Dieu. nous risquons parfois de perdre tous nos biens. Quelqu'un pourrait griffonner sur le mur de notre maison, chrétien, rentrez chez vous. Ou il pourrait nous voler, nous calomnier, ou il pourrait même nous tuer. Voilà ce qui pourrait nous arriver lorsqu'on est engagé pour la cause de Christ. Avez-vous remarqué au verset 34 le terme « avec joie » ? Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens. Et c'est cela à quoi j'aspire. À un miracle. Oui, cela est un miracle. Car aucun d'entre nous n'est par nature comme ça. Ceci est un miracle. Quelqu'un nous arrache tout ce que nous possédons. Nous vole notre voiture. Nous vole tout ce que nous estimons de précieux. Nous vole tout ce que nous avons. Et au lieu de bouillir de colère, nous nous réjouissons. N'est-ce pas cela un miracle ? C'est juste incroyable. Comment est-ce possible, Seigneur ? Nous trouvons la réponse au verset 34. Sachant que vous aviez des possessions supérieures qui demeurent. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Possessions supérieures et qui demeurent ? Il y a abondance de joie devant toi. Nous avons une possession bien meilleure. Nous avons une possession abondante et éternelle. Qu'est-ce qu'un téléphone ? Qu'est-ce qu'une voiture ? Qu'est-ce qu'une maison ou une carrière ? Qu'est-ce qu'une vie ? Nous ne mourrons jamais. Nous aurons un héritage supérieur et qui demeure jusqu'à dans l'éternité. C'est cela la source de la joie. C'est de là que vient la compassion. C'est de là que vient la motivation de visiter les prisonniers, les malades, que nous pouvons prendre soin des pauvres, des veuves et des orphelins, des réfugiés, des gens qui souffrent. C'est de cette source auquel nous devons puiser aujourd'hui. Ou alors, nous ne serons autrement que des chrétiens de nom. Ces gens ne sont pas allés visiter les prisonniers et accepter avec joie le pillage de leurs biens, juste par devoir. Comme pour ainsi dire que c'est la bonne chose à faire. C'est ce que nous sommes supposés même faire, dit le livre. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit qu'ils l'ont fait avec joie parce qu'ils savaient qu'ils avaient une meilleure possession, un meilleur héritage et un qui demeure éternellement. Bien. Après notre premier texte dans Hébreux, voici le second. Tournez avec moi dans Hébreux, chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon. Mais ceci est encore une folie, n'est-ce pas ? Ceci est juste incroyable. Préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Le monde entier vit pour le plaisir, n'est-ce pas ? La seule différence est que la leur est passagère. La nôtre, par contre, est éternelle. Et cela n'est pas la seule différence. Nous connaissons le Seigneur et Sauveur, Jésus. Et Moïse pesa dans la balance tout ce que l'Égypte pouvait lui offrir, avec ce que servir au sein d'un peuple qui vit sous l'humiliation du Christ pouvait lui offrir. Il choisissa l'humiliation de Jésus. Pourquoi ? Le verset 26 nous l'explique. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande. Comment on se sent lorsque on se moque de nous à cause de notre foi en la personne que l'on aime, Jésus-Christ ? Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Comment ? Car il regardait plus loin, vers la récompense. Voilà d'où lui venait cette force d'endurer l'opprobre et l'humiliation. Le centre de ce message est que si cette récompense, comme le décrit le psalmiste, délice à la droite de Dieu et joie pour l'éternité, que je m'en imprègne au plus profond de mon être pour que je sache qu'au lieu d'être mort, je serai avec Christ pour toujours. Cela deviendra la source de tout notre amour pour le peuple de Dieu et des nations dans le monde, de sorte que nous pourrons embrasser l'opprobre, l'humiliation pour le Christ, et les considérer comme étant ma richesse. Et cela est tellement différent de la vision du monde. Nous voilà au troisième texte, Hébreux chapitre 11, verset 35. Des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection. Et puis, au milieu du verset 35, mais d'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de rédemption, afin d'accéder à une résurrection. D'où leur vient cela ? D'où leur vient ce courage pour se dire « Non, je ne vais pas l'abandonner. Je ne vais pas le renier pour sortir de prison. Je préférerais ressusciter à une vie meilleure, à une joie meilleure et éternelle. » C'est ce que de nombreux chrétiens ont vécu dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. Vous vous rappelez de ces Égyptiens qui ont été décapités ? Qui ont tenu ferme dans leur foi. Vous vous rappelez de ces Éthiopiens qui ont été abattus pour leur foi en Jésus ? Continuons, le verset 36. D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Qu'est-ce que cela signifie ? Eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Ils étaient vêtus de peau d'animaux et vivaient dans des cavernes. Eux dont le monde n'était pas digne. Cela signifie qu'ils étaient un cadeau pour le monde, mais le monde ne méritait pas le cadeau. Et c'est ce que je souhaite que nous soyons ou devenions. Je souhaite que nous devenions un cadeau au monde, même si le monde ne le mérite pas, ne nous mérite pas. On ne va pas dans le monde, dans la communauté musulmane ou la communauté hindoue, ou la communauté bouddhiste, ou la communauté athée, ou dans le monde séculier. On ne va pas dans le monde parce qu'ils méritent de nous voir venir parmi eux. Nous y allons parce que Jésus y est allé, et parce qu'y aller nous mènera vers une abondante et éternelle récompense dans la présence du Christ. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Ce passage est peut-être le plus important de tous, de ce qu'on vient de voir. Et nous en aborderons encore deux autres après. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Donc, nous fixons les yeux sur Jésus, qui est le pionnier de la foi, qui la porte à son accomplissement. en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Maintenant, la raison pour laquelle ce passage est peut-être le plus important, bien que cela ait été peut-être jusque-là difficile à comprendre, quelqu'un pourrait émettre une objection disant que la motivation que je suis en train de décrire, à savoir la recherche de la récompense en tant que motivation pour aimer, est tout simplement défectueuse. C'est une faible motivation. Vouloir passer de la persécution à la mort, à la présence de Jésus, et expérimenter la plénitude de sa joie et les plaisirs éternels, cette motivation pour endurer, supporter et persévérer peut sembler faible. Et si vous pensez ainsi, vous êtes peut-être sur le point de rejeter l'idée d'Hébreux chapitre 12, verset 2, parce que vous êtes sur le point de dire que Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, avait à la croix une motivation plutôt défectueuse. Il n'est rien de tout cela, au contraire. Voici sa motivation, ce pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et il l'a fait en vue de la joie qui lui était réservée. En vue de la joie qui lui était réservée. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cette affirmation, c'est pourquoi que nous trouvons dans le livre aux Philippiens, au chapitre 2, verset 9, est justement basée sur le fait qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. Et il savait cela. Et il savait que cela allait arriver. Ressuscité triomphalement de la mort, rassemblant des millions et des millions de personnes, de toute langue, de toute tribu et de toute nation, entouré par eux, le louant et l'adorant pour toujours et à jamais, triomphant sur l'ensemble de ses ennemis, il savait que cela allait arriver. Et c'est cet espoir qui l'a maintenu à rester sur la croix. Je répète. Et c'est cet espoir qui l'a maintenu à rester sur la croix. Il méprisa la honte en vue de la joie qui était devant lui. Il regarda la honte en face et il lui dit, « Je te méprise. Honte, tu ne m'auras pas. Au contraire, tu m'es utile. Tu ne me gouvernes pas. Dépouille-moi. Tue-moi, ensanglante-moi, maudis-moi, tu ne signifies rien pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai une récompense qui m'attend au-delà du dimanche, au-delà de la résurrection. Pour la joie qui était devant lui, il a souffert la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite de Dieu. Il règne en Seigneur et Sauveur de l'univers. Donc, si Jésus était motivé à être et à rester sur la croix au vu de la joie qui était devant lui, nous devrions nous aussi avoir cette même motivation. Elle n'est pas une faible motivation. Au contraire, elle est la plus grande des motivations. Vouloir être dans la plénitude de la joie, dans la présence de Dieu, est la plus grande des motivations. Un texte de plus, Hébreux chapitre 13, versets 12 et à 14. C'est pourquoi Jésus aussi, pour consacrer le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. Sortons donc du camp pour aller à lui en portant son humiliation. Ainsi Jésus a souffert hors de la porte pour nous sanctifier, pour que nous lui appartenions, pour nous mettre à part comme une sainte possession qui lui appartient, unique et précieuse. Voilà pourquoi il est mort. Et maintenant, il nous dit, « Rejoignez-moi, parce que pour accomplir cela, j'ai dû aller hors de la porte, souffrir à la croix. Et c'est de cette façon que ma mission sera achevée. » Nous savons que parmi les peuples non atteints, dans lesquels nous avons encore besoin de nous y engager pour leur annoncer la bonne nouvelle, la plupart d'entre eux ne veulent pas que nous venions chez eux. Et si nous ne possédons pas cet état d'esprit, ce sera une raison suffisante pour ne pas y aller. Mais si nous avons cet état d'esprit, nous dirons alors, eh bien, la grande mission, le grand commandement, n'a pas dit d'aller faire des disciples de toutes les nations, excepté ceux qui ne veulent pas que nous venions chez eux. Toutes, c'est toutes. Allez parmi tous les peuples, chacun d'entre eux. Et ils sont hors du camp. Ils sont dans les endroits difficiles. Ils sont derrière des cultures difficiles. Ils sont derrière des langues difficiles. Et ils sont derrière des attitudes dures envers l'Ouest. Et nous sommes appelés à y aller. Donc ce qui reste à faire est la chose la plus difficile. Aller. Oh, bien sûr, il y a quelques merveilleuses histoires sur la mission, de comment ils sont arrivés, et qu'à travers des histoires, toute la tribu s'est convertie. Et ils sont devenus des héros. Ce sont des histoires qui sont rares. De merveilleuses histoires. De vraies histoires, mais de rares histoires. Dieu a un peuple parmi tous les peuples du monde et il nous commande d'aller parmi eux pour les appeler à se repentir et à se tourner vers le Christ. Mais le prix à payer peut paraître élevé car quitter sa famille, ses amis, son travail, sa maison, sa culture, sa langue, son bien-être, sa passion, sa liberté, son droit, ses privilèges, sa tranquillité, sa sécurité pour la cause de Dieu n'est pas une chose facile à vivre. Mais nous savons que c'est en vue de la joie qui nous attend dans la présence de Dieu, le Père, et de son Fils, notre Seigneur et Sauveur. Dieu nous appelle, si nécessaire, à être de ces martyrs qui meurent dans l'amour et non pas des martyrs qui tuent dans la haine. Et je pense que ce genre d'amour vient de notre profonde satisfaction que nous avons en Jésus, de notre attachement à lui et de notre espérance qui ne nous décevra pas. Car nous savons que nous ne pouvons mourir. Bien. Maintenant, en terminant, j'aimerais simplement dire que, bien sûr, parmi vous, il y a, en tout cas une bonne partie, d'entre vous ont des connaissances et des compétences qui vous permettent de servir cette ville, appelée la cité de l'homme, la cité du monde. Et nous n'avons ici-bas aucune cité qui demeure. Et cette cité, ou cette ville, c'est Mulhouse, Strasbourg, c'est Paris, c'est Tokyo, c'est Genève, c'est Berlin, c'est Alger, c'est Rabat, c'est Casablanca. Toutes ces capitales, ces villes sont les lieux où l'on vit et travaille. Et ces cités, elles ne vont pas demeurer. Et s'il s'avérait qu'il y avait parmi nous quelqu'un qui, en entendant ce message au sujet d'aimer notre récompense éternelle, se disent que nous avons juste à fuir telle ville pour aller dans une autre, c'est que vous n'avez pas saisi mon idée. Mon point est ceci. Nous tous qui envisageons, par notre vie, servir la cité de l'homme pour son bien éternel, nous la servirons bien mieux si nous aimons l'autre cité, la cité céleste. si nous aimons la cité qui est à venir, le Seigneur qui est à venir, plus que la cité de l'homme, nous servirons cette cité, cette ville, ou ce village bien mieux. Vous serez capables, nous serons capables d'être si différents, parce que nous espérons en la cité céleste, que nous serons en mesure de donner notre vie pour le bien et pour le bien de la cité, et aller dans les endroits les plus difficiles de la planète et les peuples les plus difficiles de la planète pour leur transmettre la bonne nouvelle. Notre espérance, leur transmettre toute la valeur de la cité céleste et de son roi, Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur, le Dieu de l'univers. Prions.